Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour à tous. Et tout d'abord, toutes mes excuses de ne vous présenter cette énième bande dessinée de Grégory Jarret et Autoté, celle-ci sur la guerre d'Algérie. Toutes mes excuses de ne vous la présenter qu'en podcast. Ben, c'est seulement que les mémés, c'est quelquefois hors d'état d'affronter le direct, avec le trajet, avec la technique et avec le stress assorti. Alors aujourd'hui, j'y suis pas arrivée. Et je vous présente ça depuis ma cuisine, où je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Le bout du bout, eh bien, c'est un certain 19 mars 1962. Alors on va commencer en France en 1954, et je vais à nouveau prêter ma voix mélodieuse au général de Gaulle, qui vous raconte. Avec l'abandon de l'Indochine et le départ de nos troupes, le gouvernement était embêté par tous ces militaires pleins de rancœur qui rentraient au pays. Un coup d'État est si vite arrivé. Heureusement, un incident survint à point nommé qui allait sauver notre pays. La guerre d'Indochine, c'était bien, mais la guerre d'Algérie, c'est quand même un cran au-dessus. Alors, petite parenthèse personnelle, toujours à l'adresse des nouveaux auditeurs, tant que je travaillerai avec le FLBLB, le FLEBELUB, Eh bien, faudra vous vacciner contre l'humour noir de Grégory Jarret et de son copain Ototé. Cet humour, c'est pour tout dire, même l'indicible, avec ce talent redoutable des historiens qui veulent être honnêtes. Alors on continue. Dans nos familles, on a tous un père, un grand-père, au pire un grand-oncle, qui l'a faite, la guerre d'Algérie. Et quand on débouche une bouteille de rouge au dessert, il a toujours une nouvelle histoire à raconter. Parfois, le tonton s'arrête, nous regarde au fond des yeux, la gorge nouée. Rien ne peut plus sortir. Que lui arrive-t-il? Et vous avez une demi-douzaine de vignettes après ce petit texte qui explique, qui montre un pépé avec une longue barbe blanche, qui raconte des histoires à sa petite fille, à son arrière-petite fille vraisemblablement. Il raconte ce qu'a été pour lui la guerre d'Algérie. Alors, ça commence par la corvée de bois. La corvée de bois, ben, moi j'ai appris ce que c'était par quelqu'un qui l'a faite et qui, en me rencontrant et en découvrant mon nom maghrébin, a changé de visage et s'est mis à parler très rapidement. Il avait quelque chose à dire, quelque chose d'important. Et heureusement que j'avais le temps de l'écouter. La corvée de bois, c'était un prisonnier dont on a pris les pieds dans une bassine de ciment prompt. Alors c'est sûr qu'il ne pouvait pas se sauver comme ça. Et on l'a emmené dans un hélicoptère ou enfin dans un avion. On l'a emmené et on lui a fait faire un tour au-dessus de la Méditerranée. Et on a ouvert la porte. Voilà, c'était ça la corvée de bois. Après la vignette de la corvée de bois, on a droit à une autre vignette où on voit un soldat qui tire sur une femme et sur des enfants. Un autre soldat avec un, pas un soldat, un gradé avec un képi qui joue de la gégène. Et la gégène, c'était un dispositif relativement simple. C'est un peu au niveau électricité comme montage, ça ressemble un peu à ce qui permet d'éclairer la route des cyclistes avec la petite dynamo qu'il y a accrochée aux roues. Ça ressemble donc un peu à ça. Simplement, au lieu de pédaler sur des pédales de vélo, eh bien le gradé pédale sur ce qu'on appelle donc la gégène et qui est branché sur les testicules de l'interrogé. Et ça fait de l'électricité, de la vraie électricité, mais à cet endroit-là, évidemment, c'est absolument horrible, à cet endroit de branchement. Et les vignettes suivantes, on voit la fille du pépé qui raconte, qui balance une baffe à son pépé parce qu'elle ne veut pas que sa gosse entende des choses pareilles. Et tout d'un coup, le pépé a une idée. Une idée. Il emmène la gosse dans le jardin. Et qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils jouent à la guerre, tiens, cette idée.
Thank you.
Le général Duval, qui commandait la répression à Sétif en 1945, on reviendra dessus prochainement, au mois de mai. Le général Duval déclara quand tout fut terminé « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable. » C'était pas difficile de savoir que la France ne ferait rien. Mais 10 ans, fallait être visionnaire. Les analystes tablaient sur 100 ans de paix minimum. Le 1er novembre 1954, l'Algérie était victime de 30 attentats simultanés revendiqués par une organisation jusqu'alors inconnue, le Front de Libération Nationale, FLN. À sa tête, des Algériens de bonne famille que leurs parents avaient laissés traîner le soir après 8 heures. Là-bas, ils sont très connus. Alors je vais citer quelques noms, mais pour que ce soit plus marrant, je vais glisser un intrus dedans. Saurez-vous le reconnaître ? Il s'agit de Rabat Bitat, Krim Belkacem, Mohamed Boudiaf, Didier Alouf, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben Midi, Mourad Didouche. Depuis le temps qu'on mettait les musulmans plus bas que terre, on se doutait bien qu'un truc comme le FLN nous pendait au nez. François Mitterrand, alors ministre du gouvernement Guy Mollet, dépêcha 26 000 hommes en renfort, déclara l'état d'urgence et prononça la dissolution du MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, principale organisation indépendantiste. Parallèlement, Mendès France concocta une loi pour réduire les inégalités entre musulmans et européens. Mais son gouvernement tomba. C'était comme ça sous la 4e République, dès qu'on avait une bonne idée, on tombait. Et la petite vignette qui illustre ce passage montre un Mendès à qui on a fait des épaules d'une largeur qui ne correspond pas exactement à mes souvenirs de petite fille. Mais on voit Mendès qui attaque un discours où on voit une petite caricature d'un Européen. Il y a un signe égal après lui et l'Européen égale la caricature d'Algérien. Et c'est tout simple, ils ont la même taille, ils se regardent, ils n'ont pas l'air mécontents, voilà. Et ils ont les bras ouverts. Ça, c'est l'Algérie de Mendès. Cette politique décousue nous mena au 20 août 1955, où des milliers de paysans déboussolés se ruèrent sur une trentaine de villes du Constantinois et assassinèrent 71 Français. On ne pouvait pas leur en vouloir, mais on ne pouvait pas laisser passer non plus. La répression fit 12 000 morts. Mais ce chiffre est exagéré. Dans le lot, il y avait des vieillards à l'agonie et des enfants rachitiques qui n'auraient pas survécu. On continua de dire « opération de maintien de l'ordre », mais tout le monde savait qu'on était en guerre. Nous rappelâmes sous les drapeaux 60 000 jeunes qui venaient d'achever leur service militaire. Cette décision eut du mal à passer. En gare de Lyon, Brive, Bordeaux, Perpignan, ça protestait, ça rechignait, ça renaclait à monter dans les trains. Heureusement, les politiques et les médias ne s'intéressèrent pas à l'affaire de trop près et nous pûmes botter les fesses de ces boutonneux comme ils le méritaient. Oui, les boutonneux, ils avaient l'âge de mes sœurs. Ils renaclaient à partir et ils se suicidaient en rentrant, ceux qui rentraient. Alors dans l'agglomération d'une trentaine de milliers d'habitants où je suis née, il y a 6 gars qui se sont suicidés en rentrant. Début 1956, notre gouvernement vota les pouvoirs spéciaux pour l'armée et l'Algérie fut divisée en 3 zones. Les zones d'opération, où nous logions des balles dans la nuque des rebelles, les zones de pacification, où nous protégions les populations européennes et musulmanes, mais surtout européennes, et les zones interdites, depuis lesquels plus de 2 millions d'Arabes furent déplacés dans de confortables camps de regroupement, où ils pouvaient à loisir discuter de comment on fait le couscous. Et les vignettes montrent des camps entourés de fils barbelés, avec des espaces de plus en plus réduits. En octobre 1956, les principaux responsables du FLN étaient réunis au Maroc pour envisager une pause dans les combats. Après le thé à la menthe et les cornes de gazelle, ils montèrent dans le DC-3 qui devait les emmener en Tunisie pour le même genre de discussion. Et là, notre aviation les intercepta et les fit se poser à Alger. C'était un beau coup de filet qui fit la une de tous les journaux. Le FLN décapité. D'accord, on les avait pas eus à la régulière. Mais c'était pas nous qui avons cherché la guerre. Et leur DC-3, on aurait pu tout aussi bien le descendre. Même avec ses dirigeants sous les verrous, le FLN continua la lutte. Fin 1956, la guerre s'enlisait et on avait un arrière-goût d'Indochine dans la bouche. Il nous vint alors l'idée de confier le gouvernement au général Salan, ancien connaisseur d'Indochine et de guerre subversive. Nous portâmes nos effectifs à 350 000 hommes, ce qui nous donna la possibilité de visiter de fond en comble, une fois par jour, toutes les habitations du territoire.
Faudra-t-il que tu partes à l'âge de 45 ans, que tu quittes la ferme, la terre et les champs? Le jugement a tranché, prends la terre que t'as louée. En fin de bail, c'est régulier, tu n'es qu'un petit fermier. Le cumulard peut tout oser, la loi est de son côté, la loi est de son côté.
Au début de la guerre, il existait divers mouvements nationalistes, les centralistes, l'Union démocratique du manifeste algérien, les oulémas religieux, le Parti communiste algérien et le mouvement national algérien MNA. Fin 1956, après des pourparlers musclés, ils se rallièrent au FLN, sauf le MNA. Une guerre fratricide entre les militants des deux partis fit 10 000 morts. Nous avons observé ces affrontements sans éprouver de joie. Et nous n'avons jamais essayé d'envenimer la situation en divulguant de fausses informations pour qu'ils s'entretuent. Ceux qui vous ont parlé d'opérations de bleu de chauffe sont des menteurs. Jamais il ne nous serait venu à l'idée de bien traiter nos prisonniers récalcitrants, de les forcer à manger, de les vêtir décemment et de les relâcher avec tous les égards. Ça aurait été le meilleur moyen de les faire passer pour des traîtres. Le FLN aurait fait appel à un type cruel comme le colonel Amrouche pour les égorger, faisant disparaître, sans le savoir, ses meilleurs éléments. Une telle opération n'a pas existé. Elle n'est pas digne de l'armée française, qui en a fait bien d'autres et des pires. Dès 1957, le FLN disposait à Alger de 5000 militants commandés par Yacef Saadi. Je vous ai beaucoup parlé de Yacef Saadi à propos de Germaine Tillon et je ne vais pas tarder à recommencer. 5000 militants commandés par Yacef Saadi et dispersés dans toute la Casbah. Ils posaient des bombes dans les lieux à la mode, faisaient sauter les Européens en train de danser ou de manger des merguez. Le général Massu déploya ses 8000 parachutistes pour rétablir l'ordre. Nos petits gars se disposaient en hélicoptère sur les toits, donnaient deux ou trois coups de crosse à un abruti allongé par terre qui dissimulait une trappe, et ils délogeaient des rebelles par dizaines. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous révéler un secret de Polichinelle. Oui, nos parachutistes ont torturé pendant la bataille d'Alger. Oui, nous le faisions avant. Et oui, nous avons continué après. Nos gouvernements, de gauche comme de droite, étaient au courant. Et ils n'ont pas dit de faire autrement. Ouvrez les yeux. On torture toujours en temps de guerre, dans les pays des droits de l'homme comme ailleurs. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais Napoléon a torturé, les sans-culottes ont torturé, Vercingétorix a torturé. Oui, sauf que ça, c'était avant la DDH. Qu'est-ce que c'est que ça, la DDH? On en parle beaucoup à Canal Sud, hein? La Déclaration des droits humains. Si on n'avait pas torturé, on aurait eu mauvaise conscience de ne pas avoir tout fait pour qu'avoue le salopard menotté au radiateur. Et puis la torture, c'est une question de point de vue. Si vous êtes Pierre Brossolette, en train de vous faire torturer par les nazis, vous passez un sale quart d'heure. Mais après avoir sauté par la fenêtre, vous devenez un héros de la résistance. Si vous êtes Jacques Massu, vous avez le temps d'aller vous faire un petit café pendant que vos hommes cuisinent Yacef Saadi. Et vous finirez général 5 étoiles. La torture, il faut juste être dans le bon camp. L'emmerdeur numéro un sur ces questions fut l'avocat Jacques Vergès. Fils d'un père réunionnais et d'une mère vietnamienne, il prit fait et cause pour ce que le FLN appelait la révolution algérienne. Nous préférions événement d'Algérie. Ça faisait moins ronflant. Ça vous rappelle pas les expressions pudiques du tsar actuel?
Vous connaissez l'histoire d'Ali Baba. Je m'en vais vous conter celle de ces voleurs. En tant que défenseur du marché noir, nous sommes les protecteurs de vos espoirs. D'autres appelleront ça de l'ingérence, mais ce n'est qu'une nouvelle forme de dépendance. Afin de préserver nos bons rapports, nous avons les armes, vous avez l'or. Ce qu'on voit, ni de ce que transportent ces convois. La caravane passe sous l'œil des appauvris. Y'a pas que l'uranium qu'on enrichit. De l'autre côté du monde, on n'y voit rien. On prêche la bonne parole, mais n'y gère rien. Les bandits de grand chemin. Allure, se lave des génocides et des tortures. Le CAC 40 voleurs. commerce pas équitable. On fera passer le pétrole de sous la table. On exploitera vos terres à bon marché pour nous ouvrir les portes du monde entier. Ici, le marchand de sable ne fait rêver que les banquiers aux cols ensanglantés. Si les portes de vos trésors ne s'ouvrent pas, on criera au sésame, ouvre-toi.
À chaque procès, Vergès sortait la même rengaine. Notre tribunal n'avait pas légitimé à juger les prévenus. Nous avions affaire à des résistants défendant un pays occupé et non à des terroristes troublant l'ordre public. Heureusement, les juges se bouchaient les oreilles et ils appliquaient la loi. Vergès défendit Djamila Bouhired. Elle avait posé des bombes et fut condamnée à mort, ce qui était tout à fait normal à cette époque. Mais Vergès remua ciel et terre pour obtenir sa grâce. Un peu sorcière sur les bords, elle l'avait envoûtée et il était tombé amoureux d'elle. C'est du propre pour un avocat. Djamila Bouhired devint l'égérie de la révolution algérienne et la médiatisation de son procès permit au FLN de recruter des milliers de petites poseuses de bombes qui envoûtaient les soldats français et trompaient leur vigilance. C'est pas aujourd'hui que nos pseudo-intellectuels exploitent l'actualité pour gonfler les ventes de leurs livres. À l'époque, déjà, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, François Mauriac, Henri Alleg, Marcel Régy, tout le monde y allait de son petit pamphlet contre la torture. La loi du 3 juillet 1955 permet la saisie des ouvrages déformant la vérité. Quand bien même, quelle influence pouvaient avoir ces écrivains face à des journaux comme Paris Match, fort de presque 2 millions de lecteurs et publiant les photos de nos petits gars prenant du bon temps dans les superbes paysages algériens. À la manière du Viet Minh en Indochine, l'armée de libération nationale menait des opérations de guérilla qui mettaient nos soldats constamment sur les dents. Composée de paysans ignares et durs au mal, elle avait cet avantage sur nos troupes d'être corvéables à merci, tandis que nos appelés étaient des fils à papa couvés par leur mère qui partaient en vrille à la moindre exécution sommaire. C'est pourquoi on les laissait rarement faire le sale boulot. Par contre, on les obligeait à regarder. Fallait bien en faire des hommes. Et suit une demi-douzaine de vignettes sobres, avec des illustrations sobres. On y voit des baignoires, on y voit... Eh bien, vous irez le voir vous-même. Pendant que la chair de notre chair se battait en Algérie, qui faisait tourner les usines en France, je vous le donne en mille, les immigrés algériens. Durant la période de la guerre, leur nombre doubla, passant de 200 000 à 400 000. Et savez-vous qui finançait majoritairement le FLN ? Encore les immigrés. Avec de l'argent sorti de nos poches. Voilà le paradoxe. On payait nous-mêmes l'armée nationale algérienne pour nous tendre des embuscades. Je vous rappelle que c'est De Gaulle qui parle. En 1958, la situation en Algérie était devenue incontrôlable. Le chef d'état-major des armées avait démissionné, et la rumeur se répandit que les parachutistes allaient débarquer en France pour imposer un gouvernement de salut public. Il devint évident qu'une seule personne pouvait encore sauver la République. Je m'en rappelle encore, j'étais en train de jouer au croquet quand René Coty, le président, me téléphona. « De Gaulle, on en a parlé avec les copains. On aimerait bien que tu prennes le pouvoir. » C'est que j'avais pas du tout prévu ça. Bon, allez, d'accord. Charles, ça ne va pas trop se voir que c'est un coup d'État?
T'occupe, j'en fais mon affaire.
Alors la précision, Charles, il aurait jamais dit « t'occupe ». Mais je vous en prie, Yvonne, ne vous inquiétez pas. Dans la Quatrième République, l'exécutif, le législatif, le judiciaire se contrôlaient les uns les autres. C'était égalitaire, mais pas facile à gérer. Pour résoudre la crise algérienne, il me fallait un exécutif au-dessus des autres pouvoirs. Et c'est comme ça que j'ai créé la Cinquième République, avec la Constitution sur laquelle avait beaucoup transpiré Michel Debré, et qui nous vaut aujourd'hui encore un exécutif au-dessus des autres pouvoirs, dont profite largement un certain Macron, comme les copains avant, hein, d'ailleurs.
Gentille petite fille voilée, qu'a fait ses voeux sous un ciel étoilé, qu'a prêté serment de servir ton Dieu, comme une enfant de chérir ton vieux. On voudrait en faire de toi la cata, ignorante, insolente et soumise. N'écoute pas ce que disent les gens, eux qui ne croient qu'au pouvoir de l'argent. Sommes-nous tous pas des enfants de colonies, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonies, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Nous avons fait de la haine un ami, on l'a brandi à tout va en tout nom, car l'autre fait peur comme un bon vieux mormon, un marabout mais jamais la bonne sœur. J'ai du respect pour les gens quels qu'ils soient, qu'ils lisent la Bible, le Coran, la Torah. L'égalité c'est peut-être aussi ça, une main de Fatma, une étoile, une croix. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? C'est le pouvoir du doute, quand l'autre préfère mater un match de foot pour se peindre la gueule comme faisaient les païens, mais te juge trop dangereuse pour de bons citoyens. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie?
J'ai donc créé la Ve République, la démocratie prenait du plomb dans l'aile. Mais pour faire taire les chipoteurs, j'ai instauré le suffrage universel direct. Eh ben oui, chaque fois que la gauche protestait, De Gaulle disait « Ben, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous avez voté pour moi? Alors faudrait savoir. » Eh oui, imparable. Aucun des présidents qui me succédèrent n'a porté plainte à ce jour. Le 21 décembre 1958, je devins le premier président de la Ve République. Je venais de passer les mois précédents à me promener en Algérie pour prendre la température et j'avais une idée bien arrêtée de ce que j'allais faire. Mais je ne disais rien. Ou alors des trucs creux du style « Je vous ai compris !»
L'évolution de l'Algérie doit se faire dans le cadre français. Je vous offre la paix des braves. » Pendant ce temps, la guerre se poursuivait. Nos effectifs étaient passés à 500 000 hommes. On n'en voyait pas le bout. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde avait changé. Et dominer les peuples en les colonisant n'était plus tenable. Il fallait trouver autre chose. Mais en attendant, on n'avait plus le choix. Les Anglais l'avaient compris, ils avaient lâché l'Inde. Nous n'étions pas plus bêtes qu'eux. Le 16 septembre 1959, en direct à la télévision, j'abattis mes cartes. Je considère comme nécessaire que le recours à l'autodétermination soit dès aujourd'hui proclamé. En France et en Algérie, on entendit les glottes qui descendaient dans les gorges. Le référendum se déroula le 8 janvier 1961. Nous demandâmes aux Français s'ils acceptaient qu'on consultât les Arabes sur la question de leur indépendance, alors qu'ils n'avaient même pas le droit de vote. Au vu du résultat sans appel, 75% de oui en métropole, 69% en Algérie, je décidai d'organiser des négociations avec le FLN. Quelques mois plus tard, un quarteron de généraux à la retraite tenta un putsch contre moi, en s'emparant d'Alger. J'utilisais la télévision pour prévenir en douce les soldats du contingent de ce qui était en train de se produire. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne. Hein. Alors pour communiquer en douce, c'était idéal. Tout le monde était branché sur la télé. Le putsch fit pchit. Les généraux furent arrêtés ou passèrent à la clandestinité. Mais dans l'ombre, les partisans de l'Algérie française n'avaient pas désarmé. Des attentats étaient commis fréquemment dans les quartiers arabes des grandes villes. Bientôt, un sigle apparut sur les murs. OAS, pour Organisation Armée Secrète. Dirigée par des militaires et des pieds noirs jusqu'aux boutistes, l'OAS commandita, en moins d'un an, plus d'attentats urbains que le FLN n'en avait commis durant toute la guerre. Nos terroristes étaient tout de même d'une autre trempe que les terroristes arabes. À Paris, un couvre-feu avait été déclaré qui interdisait aux Algériens de sortir après 20 heures, c'est-à-dire de travailler, d'aller travailler. Ils travaillaient, la plupart d'entre eux, en poste, à Flins, à Boulogne-Billancourt, puisqu'ils étaient en général ouvriers métallurgistes. Il y avait à Poissy aussi, il y avait Simca à Poissy. Et les soumettre à un couvre-feu à partir de 20 heures, ça empêchait ceux qui étaient postés la nuit, ça les empêchait d'aller travailler. Ils avaient leur famille, donc ils mettaient leur famille en danger de faim et de mort s'ils n'allaient pas travailler. Le préfet de police, Maurice Papon, jugea qu'il dépassait les bornes, car le 17 octobre 1961, ils furent 30 000 à défiler pour demander le retrait du couvre-feu, affirmant qu'on réduisait leur liberté alors qu'on voulait seulement leur éviter des ennuis. Papon se rua sur la foule avec un gourdin. Il tua plus de 200 manifestants. Alors, plus de 200 manifestants, c'est ce que l'on a fini par reconnaître, les pouvoirs successifs de la République ont fini par reconnaître plus de 200 morts à la suite de cette manifestation du 17 octobre. Simplement, les avocats des familles des victimes en ont dénombré, je crois, 324 ou 342, je ne sais plus. Mais c'est plus de 300. Benjamin Stora reconnaît plus de 300 aussi. Il y eut plusieurs milliers de blessés et on procéda à 12 000 arrestations. Comme Maurice Papon agissait seul, il ne s'en vanta pas et on ne l'a pris qu'après sa mort. Et effectivement, c'est en 2007, après la mort de Papon, que l'on a découvert ce que c'était que le 17 octobre 61. L'OAS manqua de peu des attentats contre Sartre et Malraux,
et le 8 février 1962, la gauche organisa une manifestation pour dénoncer le danger fasciste. Furieux qu'une fois de plus la gauche instrumentalisa la peur, Maurice Papon se jeta sur la foule et s'acharna sur des manifestants bloqués par une grille de métro à la station Charonne. Cette fois-ci, il ne tua que 9 personnes. Oui, parce que c'est tout Papon, hein. Évidemment, c'est Papon qui avait ordonné, organisé et armé la police, puisqu'il était préfet de police. Mais c'était plus simple de dire que Papon était tout seul, comme ça... Ça jetait des interrogations sur les événements. Et puis peut-être que ça glorifiait Papon pour certains. Par la suite, il se calma et devint ministre du budget. En 1998, il fut condamné pour avoir envoyé des Juifs dans les camps entre 1942 et 1944. Ce qui prouve que c'était quand même une belle ordure. Le 19 mars 1962, les accords de paix furent signés à Évian. En secret, nous avions obtenu que nos exploitations pétrolières ne soient pas attaquées, nos exploitations pétrolières, et pour que nous puissions mener nos essais nucléaires dans le Sahara, jusqu'en 1966. L'honneur était sauf. Le 1er juillet 1962, les Algériens étaient appelés aux urnes pour le référendum sur l'autodétermination. 99% des votants se prononcèrent pour l'indépendance. Ils avaient gagné, ils étaient contents. Et on allait enfin pouvoir se consacrer à l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, qui en avaient rudement besoin, hein, parce que je ne vous dis pas l'état des finances à la fin de la guerre d'Algérie. Et pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, eh bien, on continua tranquillement de voler le gaz d'Arzeux et le pétrole d'Assim et Saoud.
Je suis le petit arabe de la chanson française, un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers, un vulgaire petit cancre comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière. J'ai filé voir le docteur car j'en avais gros sur le cœur. Il m'a dit ce n'est rien, pourquoi tu te fais tant de douleur. Je lui ai dit que chez le voisin je sens comme de la rancœur. Il m'a fait super peur, j'ai le syndrome du petit beurre. Le seul beurre que je connaisse c'est le petit homme si fier, très riche en idées grasses et très pauvre en la matière. Comment cela se guérit-il? Dites-moi monsieur le savant, le savon de Marseille n'enchante-t-il pas que les hommes blancs? Il marche parfaitement bien chez les petits maghrébins. Lavez-vous bien les mains car souvent ça déteint. Je suis le petit arabe de la chanson française, un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers, un vulgaire petit cancre comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière. J'ai pourtant les symptômes d'une bonne intégration, même si j'ai pas fait le choix que l'on m'appelle Napoléon. J'ai la gueule de mes parents et quelles qu'en soient vos opinions, si t'attends autre chose de moi, c'est que t'as bouffé des champignons. Si la France a le choix des armes, je choisis le dictionnaire. Si ma vie est une galère, j'en deviendrai le missionnaire. On a tous pour ambition de pouvoir marcher droit. On s'aperçoit que dans le temps, on avance de travers. Je n'ai trouvé que la chanson pour crier fort mes plus grands rêves. Un peuple qui s'élève pour changer le glaive en trêve, pour que l'on brûle nos faiblesses comme on enflamme ses poubelles et ses phrases qui assassinent ma richesse culturelle. Je suis le petit arabe de la chanson française, un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers, un vulgaire petit cancre comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière. Sur l'ambulance, il faudrait pas que
que l'on s'étonne qu'il règne comme un intifada dans les cités que l'on bétonne. J'ai en mémoire quelques chansons qui hurlent aux armes citoyens, que l'on apprend du bout des lèvres, que l'on dégaine comme un refrain. Je vous assure, je suis français d'ailleurs bien plus que je ne le pense, même si pour l'autre je reste l'arabe qui critique la France. Je suis le petit arabe de la chanson française, un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers, un vulgaire petit cancre comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière.
Après l'indépendance, la quasi-totalité des pieds noirs, environ 1 million, quitta l'Algérie. Ce fut pour eux un déchirement d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Les Français avaient reçu pour consigne de ne jamais se moquer d'eux à cause de leur accent. Notre gouvernement restitua à l'identique tout ce qu'ils avaient perdu, une belle maison, des domestiques, des hectares de terre et la joie de vivre. Ils nous en furent reconnaissants et n'éprouvèrent jamais de nostalgie envers l'ingrate Algérie. Pour les harkis, c'est-à-dire les Arabes qui avaient épousé notre cause, ce fut plus difficile. Ils s'y prenaient à la dernière minute pour partir. Les bateaux affichaient complet le plus souvent et ils étaient obligés de traverser la Méditerranée à la nage. Néanmoins, quand ils parvenaient jusque chez nous, on leur louait des toiles de tente le temps qu'ils se trouvent une situation. Eux aussi furent très contents, car des dizaines de milliers de harkis restaient chez eux avait été égorgé. À comparer les chiffres, on ne s'en était pas si mal tiré. La guerre avait fait 20 000 morts côté français et près de 500 000 côté algérien. Une page de notre histoire se tourna. Toute une génération d'appelés fit des repas d'anciens d'Algérie. Ça leur faisait du bien d'évoquer les souvenirs entre eux. Pour faire acte de mémoire, nous avons amnistié les anciens de l'OAS. Et au fil du temps, ils furent réintégrés dans leurs fonctions militaires avec honneur et médailles. Aujourd'hui, ils vont bien. Les blessures se sont refermées. Et vous avez une illustration avec tous les portraits des chefs de l'OAS que je ne vous citerai pas parce que c'est pas la peine d'ajouter à leur gloire, n'est-ce pas? Finalement, la guerre d'Algérie permit de porter au sommet notre art militaire en matière de guerre subversive. Dans les années suivantes, sitôt qu'un de nos cadors croisait un dictateur sud-américain, ce dernier fermait un œil, tendait le pouce, gonflait les joues et sifflait pour signifier son admiration. Généralement, notre cador était recruté pour enseigner aux armées du dictateur comment mater les rebelles qui gangrenaient leur pays. C'est ce qu'on appelle l'école française. La reconnaissance avait été tardive, mais elle était là. C'était l'utilisation des compétences, principe qui sera donc méthodiquement appliqué après la guerre d'Algérie. Nous avons exporté donc ces compétences en Amérique du Sud pour former les élites dictatoriales au maintien de l'ordre, au Brésil, en Argentine, au Chili, etc., etc. Voilà pour ce souvenir du 19 mars 1962. Et comme vous aurez fait vous-même le rapprochement entre les expressions politiques des médias français à propos de la guerre d'Algérie, vous aurez fait le parallèle avec la façon dont le pouvoir russe traite de la guerre en Ukraine. Je pille le canard enchaîné de cette semaine, le canard enchaîné qui nous rapporte les paroles de Victor Hugo à propos d'une insurrection polonaise qui a eu lieu en janvier 1863 et la façon dont le tsar a maté l'insurrection. Déjà Hugo parlait de Kiev, ou presque. Un siècle et demi plus tard, rien n'a changé. Les mots de Victor Hugo sonnent toujours juste. Janvier 1863. Insurrection polonaise contre la Russie, laquelle occupe le territoire polonais depuis que trois partages successifs entre Empire russe, allemand et austro-hongrois l'ont rayé de la carte. Dès février, Hugo adresse ce texte aux soldats russes. Il suffit de remplacer les mots « Pologne » par « Ukraine » et « Varsovie » par « Kiev » et on est arrivé à aujourd'hui. Soldats russes, redevenez des hommes. Cette gloire vous est offerte en ce moment. Saisissez-la. Pendant qu'il en est temps encore, écoutez. Si vous continuez cette guerre sauvage, si vous, officiers, qui êtes de noble cœur, mais qu'un caprice peut dégrader et jeter en Sibérie, si vous, soldats, serfs hier, esclaves aujourd'hui, violemment arrachés à vos mères, à vos fiancés, à vos familles, sujets du Knout, maltraités, mal nourris, condamnés pour de longues années et pour un temps indéfini au service militaire, plus dur en Russie que le bagne ailleurs, si vous, qui êtes des victimes, vous prenez parti contre les victimes, si à l'heure où l'Ukraine, vénérable, se dresse, à l'heure suprême où le choix vous est donné entre Pétersbourg, où est le tyran, et Kiev, où est la liberté, si dans ce conflit décisif vous méconnaissez votre devoir unique, la fraternité, si vous faites cause, cause commune contre les Ukrainiens avec le tsar, leur bourreau et le vôtre, si, opprimé, vous n'avez tiré de l'oppression d'autre leçon que de soutenir l'oppression, si de votre malheur vous faites votre honte, si vous, qui avez l'épée à la main, vous mettez au service du despotisme, monstre lourd et faible qui vous écrase tous, russe aussi bien qu'ukrainien, votre force aveugle et dupe, si au lieu de vous retourner et de faire face aux bouchers des nations, vous accablez lâchement, sous la supériorité des armes et du nombre, ces héroïques populations désespérées réclamant le premier des droits, le droit à la patrie. Si en plein XIXe siècle vous consommez l'assassinat de l'Ukraine, si vous faites cela, sachez-le, hommes de l'armée russe, vous soulèverez l'exécration du monde civilisé. Les crimes de la force sont et restent des crimes. L'horreur publique est une pénalité. Soldats russes, inspirez-vous des Ukrainiens. Ne les combattez pas. Ce que vous avez devant vous en Ukraine, ce n'est pas l'ennemi. C'est l'exemple. Signé Victor Hugo, depuis Hauteville House, en février 1863. Écrit donc depuis son exil. Voilà, je vous rediffuserai cette émission pour me déculpabiliser de ne pas avoir été capable de faire le direct. Donc, à bientôt. Merci de votre écoute.
Au Poudre-Aguignan, il y a de bonnes nouvelles. Au Poudre-Aguignan, il y a des manifestants. Ils ont le cheveu court et l'habit des casernes. Ils ont le cheveu court, ça ne veut rien dire du tout. Et ils crient dans la rue qu'ils en ont assez de vider les ordures des congalonnés. Soldats sont pas toujours dociles, soldats peuvent tourner leurs fusils. Soldats sont pas toujours dociles, soldats peuvent tourner leurs fusils. L'armée du vieux monde, elle a du plomb dans l'aile. L'armée du vieux monde, il faudra la noyer. L'armée du vieux monde, elle a du plomb dans l'aile. L'armée du vieux monde, il faudra la noyer. Au mouton de palurge, les dents leur ont poussé. Au mouton de palurge, poussez-vous du chemin.
Les colons légers gênent, ont des boutons de fièvre. Les colons légers gênent, courent après leur armée d'Alger de Saïgon. Voilà le revers d'Alger de Saïgon. Fini le bon temps, faudra trouver votre mitraille pour faire marcher vos safaris. Faudra trouver votre mitraille pour faire marcher vos safaris. L'armée du vieux monde, elle a du plomb dans l'air. L'armée du vieux monde, il faudra la noyer. L'armée du vieux monde, elle a du plomb dans l'aile. L'armée du vieux monde, il faudra la noyer. Y'a plus guère de respect dans notre bonne France. Y'a plus guère de respect, le drapeau est souillé. Honneur, famille, patrie, c'est à l'arc de triomphe. Honneur, famille, patrie, ça fait des Maccabées. Puisqu'il faut éviter les pertes d'énergie, allons éteindre la flamme au lieu de la rallumer. L'armée, que voulez-vous en faire? L'armée, c'est pour tirer sur qui? L'armée, que voulez-vous en faire? L'armée, c'est pour tirer sur qui? L'armée du vieux monde, elle a du plomb dans l'air. L'armée du vieux monde, il faudra la noyer. L'armée du vieux monde, elle a du plomb dans l'air. L'armée du vieux monde, il faudra la noyer. L'armée du vieux monde.